Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la mission logiciel libre de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. J'ai pour cela plaisir à recevoir avec moi aujourd'hui, en studio, Bastien Guéry, chef de cette mission logiciel libre, et Hélène Jonin, développeuse et chargée de mission communauté et contribution. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bastien, Hélène, bonjour. Alors pour ne pas déroger aux usages en la matière et pour que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent comprennent d'où vous parlez, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît en nous donnant une idée de votre parcours, de votre arrivée dans cette administration et peut-être à travers tout cela de votre rapport au logiciel libre. Qui veut commencer ? Bastien ?
Bonjour, je suis Bastien Guéry, j'ai un passé de développeur, j'étais engagé dans le logiciel libre depuis assez longtemps en connaissant les associations de l'écosystème, et puis autour des années 2010-2012, je suis tombé sur ce livre de Fred Turner, de la contre-culture à la cyberculture, qui a été un déclic, où je me suis dit que pour vraiment passer à l'échelle tous les efforts, il fallait à tout prix soutenir le logiciel libre dans l'administration. J'ai eu la chance ensuite, en tant que développeur, de rentrer dans un programme qui s'appelle Entrepreneur d'intérêt général et de travailler pour le ministère de la Culture avec des logiciels libres et pour des logiciels libres. Et ensuite de rejoindre Etalab et la direction interministérielle du numérique où je travaille avec mes collègues sur cette mission logiciel libre à soutenir la transformation des ministères avec le numérique et des logiciels libres en particulier.
Je vais me permettre, de la part de mon collègue, je crois que tu contribues notamment au logiciel libre qui s'appelle OrgMod, et je sais que Fred en est effectivement un très grand fan, et je pense qu'il n'est pas le seul, donc voilà, je me permets peut-être de te saluer sur ses contributions importantes sur ce logiciel. Hélène ?
Bonjour, moi je suis Hélène, je suis aussi développeuse depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé à travailler dans des entreprises privées où j'étais une simple utilisatrice de logiciels libres. Mais ça m'a toujours un peu titillé où j'aimais bien le concept de logiciel libre et de participation. Donc je souhaitais pouvoir contribuer sans avoir jamais trouvé la porte d'entrée jusqu'à temps d'effectivement tomber sur le programme Entrepreneur d'intérêt général qui m'a permis de rentrer dans l'administration et de contribuer à des logiciels libres via ce programme. Et ensuite, à la fin de ce programme, j'ai rejoint la mission où j'ai été complètement immergée et maintenant, grâce à ma présence dans la mission, j'ai même commencé à développer des petites briques libres qui sont pour l'instant encore de niche, mais c'est un début.
Je pense qu'on en reparlera, si on y pense, de ce projet de EIG, Entrepreneur d'intérêt général, puisque vous êtes tous les deux rentrés dans la mission, enfin, à la DINUM par cette porte, que ça a produit des choses assez intéressantes, et il y a des exemples concrets assez parlants de ce que ça a permis de produire. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant, je vais vous proposer peut-être de faire une petite remise en place historique, on va dire, hein, parce que la mission logiciel libre, le pôle logiciel libre, d'ailleurs, on parlera peut-être de cette différence, ou de cette évolution sémantique, il s'inscrit dans un historique institutionnel, hein, au niveau de la direction interministérielle du numérique, même si elle n'a pas toujours porté ce nom, et puis plus globalement dans l'histoire de la place du logiciel libre dans les administrations. Alors, désolé d'avance pour cette longue tirade, hein, mais ce contexte me paraît utile pour comprendre aussi ce qui se joue. Donc on pourrait remonter plus loin, mais je vous propose de commencer en 2012 avec la circulaire Hérault, du nom du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Hérault, sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration. C'est un document qui est important et qui envoyait un signal politique fort, car il était signé par un Premier ministre, et il propose des pistes intéressantes pour une meilleure et plus large utilisation du logiciel libre dans les administrations. 2016, une loi République numérique, où il y a eu de longs et riches débats au Parlement autour d'amendements poussés par l'April pour une priorité au logiciel libre, même si malheureusement ce n'est qu'un encouragement au logiciel libre qui a été retenu, hein, qui est donc sans portée normative, donc sans force de loi qui a été adoptée. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Plus récemment, fin 2020, le député Éric Botorel remettait son rapport sur les données, algorithmes et codes ouverts, et il préconisait notamment de, je cite, « développer l'utilisation des logiciels libres pour se donner les moyens de nos ambitions ». Je cite toujours le rapport, avec notamment le besoin, toujours selon ce rapport, d'impulser la politique logiciel libre au niveau ministériel avec des moyens humains, voire de créer une agence ou mission interministérielle pour accompagner les administrations sur leur utilisation, la publication et la politique de contribution au logiciel libre. Et donc les prémices de ce que deviendra le pôle ou la mission logiciel libre, même si l'idée d'une agence paraissait peut-être un peu plus ambitieuse. Je précise aussi que dans le cadre de travaux préparatoires de ce rapport, une consultation publique avait été menée et la création d'une telle mission avait été une des propositions, entre autres, proposées par l'April. Je précise également que nous avions reçu Éric Botorel dans le Libre à vous 90, donc libreavoue.org/90. J'aimerais aussi d'ailleurs citer ici le rapport Latombe, un autre député, Philippe Latombe, de juillet 2021 sur la souveraineté numérique, qui préconisait, entre autres, de manière explicite et sans embâge, d'imposer, et je cite donc, d'imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre en faisant de l'utilisation de solutions propriétaires une exception. Une prise de position que l'April a évidemment saluée et nous avions reçu Philippe Latombe dans Libre à vous 113. Avril 2021, donc suite à la publication du rapport Botoel que je mentionnais juste avant, une nouvelle circulaire d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Jean Castex, sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources. La circulaire précise que, et je cite, « l'ambition de la politique publique implique un renforcement de l'ouverture des codes sources et des algorithmes publics, ainsi que l'usage de logiciels libres et ouverts ». Une déclaration avec laquelle il est difficile d'être en désaccord, mais qui était déjà en fait l'ambition de la circulaire de 2012, dont j'ai parlé à l'instant. La circulaire héros. Ceci dit, la circulaire ne s'arrête pas complètement au simple affichage, hein. Elle reprend une des principales propositions du rapport Botorel sur le logiciel libre, la création d'une mission dédiée à l'animation et à la promotion interministérielle en matière de logiciel libre et de commun numérique. Et une circulaire qui sera traduite en plan d'action en fin 2021 et qui annonçait vouloir faire de l'État, et je cite, un utilisateur et contributeur du logiciel libre, et annonçait, je cite toujours, un renforcement des moyens humains, notamment au niveau de la DINUM, l'ouverture de portails et un signal envoyé à l'écosystème du logiciel libre avec la création d'un conseil d'expertise qui réunit administration et représentants de l'écosystème. Et c'est donc dans le cadre de ce plan d'action qu'Ende, alors à l'époque le pôle logiciel libre qui a été apparemment rebaptisé en mission logiciel libre, a été créé il y a près un an et demi. Et d'ailleurs Bastien, tu étais venu nous présenter ce plan d'action, enfin nous parler de ce plan d'action en décembre 2021 dans l'émission numéro 126 si vous souhaitez la retrouver. Alors voilà, désolé pour ce monologue, mais voilà, je pense que ça permet de remettre les bases et puis on n'a pas forcément besoin d'y revenir. Ça dit, je vous laisserai bien sûr réagir si vous le souhaitez à cette proposition de contexte et nous discuterons, pourrons discuter aussi juste après de l'évolution de ce contexte et des changements en cours de la DINUM, le contexte évolue beaucoup. Mais est-ce que vous voudriez bien dans un premier temps nous rappeler c'est que tels les objectifs de la création de ce pôle ou de cette mission, vous pourrez d'ailleurs, on précisera en fait par la suite les ce qu'au cœur des missions, nous reviendrons bien sûr en détail par la suite, mais disons voilà, je vous propose cet exercice. Si vous deviez expliquer entre une et deux minutes ce qu'est et ce que fait le pôle, la mission logiciel libre, que diriez-vous?
Le plan d'action qui est publié en 2021 dans la foulée de la circulaire Castex d'avril, c'est trois verbes: utiliser, publier, attirer. Utiliser plus de logiciels libres dans l'administration, publier plus de codes sources pour leur donner de la visibilité et trouver les occasions de mutualiser entre ministères, et attirer des personnes qui ont ces compétences sur l'open source. Donc ça, c'est assez simple, c'est le plan d'action. Et je me souviens qu'en décembre 2021, je vous avais donné rendez-vous dans 3 ans pour dire on aura d'ici là l'occasion de faire un bilan.
Là, on a mi-chemin, donc.
On est à mi-chemin, c'est très bien. Ces trois verbes et ces objectifs pour être à la hauteur de nos ambitions, on construit une équipe avec une expertise, plusieurs expertises. En fait, ça, on a la stratégie. Maintenant, il faut l'équipe pour la mettre en œuvre. Et notre stratégie a été d'aller chercher des gens avec des compétences complémentaires. Donc, typiquement, moi, je suis développeur, mais j'ai des compétences limitées en développement. Mon collègue Joseph Garonne, qui est responsable du CIL et d'une implémentation React du système de design du gouvernement, est développeur dans d'autres compétences.
C'est le socle interministériel des logiciels libres. C'est une sorte de catalogue de logiciels libres à disposition des administrations.
Qu'on recommande à toutes les administrations. Donc, déjà, construire une équipe avec des compétences pluridisciplinaires où on a à la fois du technique, à la fois aussi des connaissances légales, à la fois des expériences dans des environnements administratifs ou entrepreneuriaux différents pour être un endroit de référence pour toutes les autres administrations. Notre direction est interministérielle, on coordonne et on définit la stratégie de transformation du numérique de l'État et les ministères se tournent vers nous. Donc nous, on crée un réseau dans ces ministères de ceux qui veulent ouvrir des codes sources, et de ceux qui s'intéressent à comment les utiliser mieux et plus. Et soit on a les compétences dans notre petite équipe, hein, j'ai cité trois personnes avec Hélène et Joseph, on a aussi Lamia et Louison qui nous ont rejoints récemment et qui sont au cœur de cette équipe de cinq personnes. Mais soit on a les compétences chez nous, soit on va les chercher dans d'autres ministères qui ont aussi leurs propres compétences. Si je peux dire un mot sur l'historique que tu as proposé, qui est très intéressant. En t'écoutant, je me rendais compte que si on retient quatre dates, hein, 2012, Circulaire Hérault, 2016, Loi Lemaire, 2020, le rapport Botorel, en amont de ces événements-là, ils surgissent pas du néant, en amont, il y a la rencontre entre deux choses. Il y a des gens dans les administrations qui ont déjà essayé des logiciels libres. 2012, ça fait 6 ans que le ministère de l'économie et des finances essaye LibreOffice, essaye PostgreSQL, essaye d'autres logiciels. Les gens ont une expérience de première main et ils partagent ces expériences-là. Ils construisent un réseau, ils construisent une culture logiciel libre à l'intérieur de l'administration. Et c'est la rencontre entre cette culture et des gens de l'extérieur, typiquement les associations, l'AFUL, l'APRIL, qui va permettre de rédiger la circulaire Hérault. La circulaire Hérault, c'est pas Jean-Marc Hérault qui s'est assis tout seul pour la rédiger. Donc, culture interne dans l'administration, plus ouverture à des communautés et l'écosystème du logiciel libre. Ça, c'est pour 2012. 2016, pareil. La culture interne, c'était celle d'EtaLab, qui existe depuis 4 ans et demi, en 2016, qui culmine avec l'organisation du partenariat pour un gouvernement ouvert. EtaLab utilise des logiciels libres, a déjà accueilli Richard Stallman, je crois, à l'époque. C'est ce que c'est. Cette culture, elle va ensuite rencontrer les communautés, justement en décembre 2016. C'est le moment où il y a ce débat avec la société civile sur c'est quoi le gouvernement ouvert. Si on veut vraiment ouvrir le gouvernement, qu'est-ce qu'on ouvre? Est-ce que c'est juste la participation citoyenne? Est-ce que ce sont aussi les logiciels libres de l'administration? Donc culture et ouverture aux communautés. Et 2020, pareil. 2020, ça fait 2 ans que je travaille à EtaLab sur le logiciel libre et que je cristallise un peu les bonnes volontés des uns et des autres du côté de Betagouv, du côté d'autres administrations sur le portage du sujet. Et c'est aussi via la consultation faite dans le cadre du rapport sur la donnée publique de Éric Botorel, la rencontre avec ce qui a été exprimé par l'APRIL, par le CNLL et d'autres associations de l'écosystème pour dire il faut une mission logiciel libre. Voilà, mais pour dire vraiment que tous ces jalons très importants, c'est à chaque fois une culture interne qui est prête à entendre des propositions externes et cette façon d'avancer sur deux jambes, on aimerait le préserver dans ce qu'on construit aujourd'hui qui est une équipe, une mission autour de plus utiliser, plus publier pour partager et attirer des personnes que ça intéresse dans l'administration.
Merci pour cette précision, je pense utile. Préciser aussi que donc EtaLab, que tu as mentionné plusieurs fois et on va en reparler, c'est un service, alors je sais plus quel statut, ça fait partie de la direction interministérielle du numérique, c'est un département, merci. Un département de cette DINUM. Alors j'évoquais tout ce contexte historique que tu as très pertinemment complété, ce n'était bien sûr pas gratuit car cela fait écho à l'actualité de la DINUM et donc de la mission logiciel libre, hein, puisqu'elle dépend de cette direction. En effet, là, il y a une réorganisation visiblement importante de la DINUM qui pose de fait la question du périmètre de vos actions, de vos moyens, de votre poids dans les arbitrages au sein de cette direction, et une réorganisation qui intervient en plus dans le contexte de l'arrivée d'une nouvelle directrice, Stéphanie Cher, arrivée près d'un an après le départ de son prédécesseur, et dans le contexte également d'un nouveau décret qui a été publié le 22 avril 2023. Je vais également préciser, et ça c'est quelque chose d'important d'un point de vue extérieur et plus précisément du point de vue de l'APRIL, il y a eu des signes que nous avons jugés inquiétants, fondons-nous, on va pouvoir en discuter, qui nous ont amené à nous demander s'il n'y aurait pas un recul sur les ambitions affichées dans le plan d'action notamment, parce que on est dans le contexte d'un changement de gouvernement, même si c'est sur la même majorité, d'une nouvelle direction. Est-ce que les ambitions affichées sont maintenues, est-ce que les moyens sont maintenus, on va pouvoir en discuter. Pour donner des exemples rapides ce qui est l'objet de nos inquiétudes, par exemple, on est membre du conseil d'expertise logiciel libre qui faisait partie de ces propositions portées dans le plan d'action. Deux réunions ont été annulées à deux reprises, ce qui n'est pas rien. Des offres de recrutement de la DINUM qui ne parle plus de logiciel libre mais qui utilise plutôt le vocable de code ouvert, laissant penser qu'il y aurait peut-être que l'aspect contribution serait laissé un peu de côté pour simplement être dans une logique d'utilisation. Ou encore un article de presse sur le site de la Lettroie qui évoquait en mars dernier une vague de départ de la DINUM autour de choix stratégiques contestés. Voilà, donc dans ce contexte intervient cette réorganisation. Je crois que c'est le 1er juin qu'il va y avoir des feuilles de route et de la communication autour des choix qui vont être opérés, mais il pourrait être intéressant dans le cadre de nos discussions d'avoir un peu plus de visibilité, et en particulier sur ce qui concerne la mission logiciel libre. Je vais donc poser la question très simplement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette réorganisation, et est-ce qu'il y a une remise en cause des missions de la mission logiciel libre?
Non, il n'y a pas de remise en cause de la mission logiciel libre. Stéphanie Cher, la nouvelle directrice, a été mentor dans le cadre du programme Entrepreneurs d'intérêt général dont on a parlé tout à l'heure. Les mentors de ce programme EIG, ils sont les premiers formés sur ce que c'est que les logiciels libres et l'importance de l'open source, pour employer les deux vocables, comme vecteur de mutualisation dans l'administration. Puisque ce que font les EIG, les designers, développeuses, développeurs, doit contribuer non seulement à la communauté des EIG, mais être ouvert au-delà. Et c'est l'un des endroits dans l'administration où on ouvre systématiquement. Donc Stéphanie Cher connaît bien le sujet. Ensuite, elle a publié une feuille de route où vous trouverez, je crois, logiciel libre à toutes les pages, parce qu'il y a un engagement très fort de la DINUM pour opérer des produits pour son compte et pour le reste des ministères qui intégreront nativement cette dimension de l'open source. C'est-à-dire qui feront l'état des lieux de quand on propose du stockage de fichiers au ministère de l'Intérieur et à tous les ministères, qu'est-ce qu'on utilise, sur quoi on s'appuie, est-ce qu'on s'appuie sur une solution libre ou non. La DINUM veut s'appuyer sur de l'open source et elle veut le faire en connaissance des enjeux qu'il y a en termes de contribution, de discussion avec les éditeurs, de soulever les sujets délicats, difficiles de gouvernance. Si je donne un exemple que les auditeurs connaissent peut-être sur Nextcloud, qui est une solution de stockage de fichiers. L'éditeur allemand de Nextcloud n'accepte dans les discussions autour de la feuille de route de son logiciel que les clients payants. C'est un logiciel libre, mais la participation à sa feuille de route demande de payer, demande d'avoir un accès privilégié. Donc là, si l'État s'engage et engage les deniers publics pour aller vers du Nextcloud, il faut se poser calmement pour voir comment pérenniser la solution auprès des ministères et comment la pérenniser dans l'absolu en ayant un échange sain et franc avec l'éditeur en amont. Donc ça a toujours été clair. Et l'April, aussi bien que tous les autres membres du Conseil logiciel libre, est invité à l'inauguration de la feuille de route le 1er juin cette semaine, l'événement organisé par la DINUM, et on retrouvera ces éléments où il y a un différentiel très fort par rapport aux autres directions sur s'engager dans l'open source, et on sait qu'on n'y va pas tout seul. Ce qui a flotté, c'était la question de savoir s'il fallait maintenir un pôle d'expertise au sein de la DINUM. La crainte, c'est que si on crée un pôle d'expertise avec une fonction transverse, disant aux uns et aux autres, au ministère et même à d'autres entités extérieures ou collectivités par exemple, comment faire de l'open source, on peut avoir ce réflexe de crispation bureaucratique qui fait qu'on devient un passage obligé et au lieu d'aider, on contrôle. On va être un point bloquant. On va dire, ah non, c'est pas ça la licence qu'il faut mettre. Ah, vous avez oublié ça, mais désolé, nous ne sommes que quatre, on peut pas vous aider. Donc on va juste signaler aux gens ce qu'ils font mal et on n'arrivera pas à les aider pour de vrai. Donc cette crainte-là, on a réussi à convaincre la direction de dire, regardez l'historique de ce qu'on fait, la mission logiciel libre essaye toujours d'être dans le fait d'aider, de choisir de l'aide à impact, et cet impact-là, on l'assume et c'est ce qu'on va faire pour la suite. On ne peut pas se permettre d'être un passage obligé, réglementaire, bureaucratique, bloquant, et donc on maintient cette mission-là. On sera plus dans le département Etalab, on sera dans un nouveau département qui a été affiché dans l'organigramme qui s'appelle Appui, Contrôle et Expertise, parce que c'est la fonction de la DINUM à l'égard des autres ministères. On les appuie dans lire le catalogue des logiciels libres et savoir lesquels utiliser. On les appuie dans publier des codes sources. Si je donne un exemple rapidement de projet à impact, on a donc ce système de design du gouvernement que tous les ministères en administration centrale doivent utiliser pour les nouveaux sites. C'est ce que les gens ont dans la tête en voyant liberté, égalité, fraternité de façon verticale. C'est la marque de l'État, mais ça demande du code source. Il faut le développer. Techniquement, il faut s'y mettre. Il est très possible que dans l'urgence de l'implémentation, deux ministères fassent des développements similaires en parallèle sans le savoir. Et là, nous, notre fonction transverse, c'est d'être au courant de ces problèmes, de cet argent dépensé en double, de mettre les gens autour de la table pour partager et dire voilà la fonction d'ouverture. Et si on a 10 sujets comme ça qui se présentent, et de se concentrer sur les 3 qui auront le plus d'impact et qui permettront de rationaliser et d'économiser pour continuer à faire que notre mission aide à tout le monde.
D'accord. Bon, pour essayer de comprendre aussi comment pourrait impacter cette réorganisation, je pense que l'aspect organisationnel, parce que tu as parlé de l'organigramme, n'est quand même pas anodin, notamment quand il s'agit de peser aussi dans en termes d'arbitrage politique dans les orientations, parce que c'est aussi le rôle de l'individu. Hein, il me semble d'ailleurs dans le décret, ça parle de piloter aussi les stratégies de mutualisation, etc. Donc, il me semble qu'avant cette réorganisation, la DINUM, enfin la directrice, était deux crans hiérarchiques, donc N+2 par rapport à toi en tant que chef de cette mission, ce qui est plutôt un rapport relativement direct, avec l'État Lab qui était finalement en référent direct par rapport à la direction. Le fait d'être dans l'État Lab aussi, parce que l'État Lab sont portés une certaine éthique, hein, de par son histoire, de par aussi ses missions, le fait de sortir d'État Lab pourrait peut-être aussi nous inquiéter, c'est-à-dire passer finalement de quelque chose qui porte une certaine vision politique du logiciel libre pour passer peut-être vers une application plus pragmatique, open sourciste, je dis ça voilà sans vouloir trop inutilement. Alors ouais, comment se situe maintenant la mission en termes hiérarchiques au sein de la DINUM, et puis voilà, est-ce qu'il y a un changement dans les moyens qui vous sont alloués pour remplir vos missions?
On est, s'il faut parler en N, on est toujours en N-2, c'est-à-dire qu'il y aura une chef ou un chef de ce nouveau département appui, contrôle et expertise qui est en cours de recrutement, et la directrice au-dessus de ce chef-là, et nous serons dans ce département. Donc là, il n'y a pas de changement. La naissance historique dans l'État Lab, elle avait du sens parce que notre premier sujet, c'était l'ouverture des codes sources. Donc cette ouverture-là, elle s'associait à l'ouverture des données. Mais ça n'a plus de sens de rester dans l'État Lab si, en plus de l'ouverture, on prend à bras-le-corps le fait d'aider les ministères à utiliser des logiciels libres. Et on va pas aider que les ministères, on va aussi aider la partie de la DINUM qui veut discuter avec Nextcloud. Donc on va aider tous les produits de l'opérateur à intégrer cette dimension de l'open source dès leur conception. Quand je dis tous les produits de l'opérateur, on peut en citer. On a CHAP, qui est un outil de messagerie instantanée entre les agents. Plus de 200 000 agents dans plein de ministères l'utilisent. Ça demande de s'asseoir pour bien discuter avec l'éditeur de ce logiciel, pour savoir est-ce que c'est utile que l'administration soutienne financièrement la fondation Matrix. Matrix étant le protocole qui permet cette fédération entre les serveurs. On peut citer comme autre produit le produit de visioconférence qui s'appuie sur Big Blue Button. Donc là, on a l'éducation nationale qui contribue et qui a une expertise très forte sur Big Blue Button, qui est remerciée dans les releases de Big Blue Button par l'éditeur. Comment nous, DINUM, on avance pour vraiment mettre l'open source au cœur de tous ces produits-là. Et notre mission, la mission logiciel libre, aidera en interne à la DINUM aussi bien qu'en en externe. Ce qui nous motive, c'est de se dire il y a un défi de taille de faire le pas définitif de l'open source. Donc c'est un peu le dog fooding, hein, c'est apprendre par nous-mêmes en se confrontant aux défis les plus difficiles, sans s'abriter sur « Ah, on n'est pas très nombreux, on peut simplement faire de la doctrine et aider ». Non, on va pas juste faire de la doctrine, on va résoudre des vrais problèmes et on va échouer dans certains cas, réussir dans d'autres, et c'est ça qui nous donnera de la légitimité pour parler avec tous les ministères. En termes de moyens, on aura les moyens propres de la mission logiciel libre qui seront, à mon avis, constants par rapport à ce qu'on a eu par le passé, mais on aura tous les produits de l'opérateur qui auront aussi leurs propres moyens pour intégrer la dimension open source. Donc ça, c'est le reflet de l'engagement fort de la feuille de route vers le logiciel libre.
D'accord. Pour te citer, tu disais qu'en décembre 2021, tu nous proposerais de voir dans 3 ans, donc là on est à mi-chemin, à t'écouter, tu sens toujours confiant qu'on est dans la bonne direction finalement et que dans un an et demi maintenant on pourra se rendez-vous.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la DINUM. Nous, on est un ancrage fort. Ça, c'est un lieu de référence. Il y a 3 ans, on a lancé la communauté Blouat. Cette communauté.
Et on va en parler. C'est très intéressant, effectivement.
C'est les agents publics qui s'impliquent dans le logiciel libre à tous les niveaux, collectivités, administration centrale, niveau déconcentré. Donc ça, ça diffuse. C'est un catalyseur de culture. Ça diffuse. Et ça veut dire que via ce réseau-là, eh bien, des collectivités qui ont entendu parler un peu du logiciel libre, soit nous trouvent, nous envoient un email, on les met en contact avec les bonnes personnes, soit trouvent de l'expertise auprès d'un chaton qui propose des services professionnels. Alors, pardon, chaton, faut expliquer, mais hébergeur.
Le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, voilà, qui est un projet porté notamment par Framasoft, mais voilà, c'est un collectif d'associations ou entreprises, qu'importe, qui propose des services libres et loyaux autour d'une charte, voilà.
Voilà, donc c'est l'intérêt d'avoir code.gouv.fr, c'est l'intérêt d'avoir notre mission, c'est qu'on raccourcit le temps et l'espace entre les gens qui peuvent faire avancer le logiciel libre chez eux.
Je tiens à préciser, Hélène, et vous me l'aviez effectivement dit en préparant l'émission, que vous ne souhaitiez pas forcément réagir à ces questions plus politiques et qui effectivement relève plutôt de la fonction de responsable de la mission de Bastien, mais n'hésitez bien sûr pas à prendre la parole néanmoins. De toute façon, on pourra discuter plus en amont de ce qui est le cœur de votre, ce qui constitue le cœur de votre mission au sein de la mission logiciel libre, et voilà, de toute façon dans la suite des échanges. Avant peut-être justement de rentrer un peu plus dans le vif concret du sujet, j'avais aussi une question, parce que parallèlement à ce contexte organisationnel, bon, qui me semble nous rassurant, alors l'April va bien sûr garder un œil attentif aux évolutions à venir, à l'annonce et à la des précisions sur les feuilles de route. Je pense qu'il peut être aussi intéressant de se poser rapidement la question plus globale, hein, et profiter un petit peu de ton regard sur un état des lieux, on va dire, de l'usage du libre par les administrations, voire leur contribution. Parce que quand malgré des signes encourageants, comme à l'époque le plan d'action, bon, de ce que tu nous écris également, il y a aussi eu en signe positif les déclarations récentes de la direction numérique de l'éducation, on continue quand même à constater une forte dépendance à Microsoft, que ce soit du ministère, par exemple, des armées, l'éducation nationale, et parfois aussi ces sensations que ça avance quand il y a justement des agents au sein des administrations qui portent les sujets. Et du coup, un sentiment que ça dépend beaucoup des individus et notamment en position hiérarchique, hein, dans des positions d'autorité, et qu'en fonction de leur perception ou non des enjeux politiques sous-jacents, ils vont plus ou moins soutenir le libre dans les pratiques de leur direction, de leur service, etc. Et donc, que quelque part, sans cadre clair et contraignant, ça reste un peu à la carte. C'est pour ça que d'ailleurs que l'April porte défend la nécessité d'un principe normatif, d'une priorité au logiciel libre pour donner cette impulsion en complément des évolutions culturelles internes que tu as très bien décrit. Donc voilà, peut-être avoir ton regard dessus. Quel est ton sentiment, ton regard sur un état des lieux, voilà, de la place du libre sur l'évolution? En fait, en te posant la question, tu as déjà en bonne partie peut-être évoqué des pistes. Et peut-être l'occasion d'évoquer un aspect intéressant du plan d'action qui était les référents logiciels libres au sein des ministères. Voilà, est-ce que ça porte un peu ses fruits? Alors plusieurs questions en une, désolé.
Non, mais on a un réseau interministériel des responsables d'ouverture des codes sources, qui sont les administrateurs ministériels des données, algorithmes et codes sources, et donc qui, eux, sont à la manœuvre pour définir une stratégie d'ouverture des codes sources dans leur administration. On sait qu'à moyen constant, on ne peut pas vouloir tout ouvrir, donc nous, on les aide à prioriser en se disant qu'est-ce qui est le plus utile d'ouvrir en termes de réutilisation d'économie d'argent et qu'est-ce qu'il est obligatoire d'ouvrir en termes de transparence de l'action publique. Donc ce réseau-là, il existe, et ensuite on est en lien avec des ministères qui commencent à se structurer un peu on n'a pas parlé de la notion, mais nous on s'identifie à ce qui s'appelle un OSPO, donc un Open Source Program Office, c'est-à-dire une entité dans une structure dédiée à l'open source. Et on voit des embryons d'OSPO émerger dans les ministères. Je cite du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, le comité pour la science ouverte est aujourd'hui à la manœuvre pour intégrer l'ouverture des codes sources des chercheurs. Et on a là beaucoup de cerveaux mis à contribution pour dire qu'est-ce qui doit être ouvert, comment, dans quelles conditions, c'est quoi le logiciel libre dans le supérieur. Redis-moi un peu des questions, je suis perdu.
La question plus globale, c'était quel était l'état des lieux, selon toi, un petit peu, oui, de cette utilisation du libre dans les ministères, dans les administrations centrales.
C'est
une progression.
Oui. Donc c'est pour ça, je citais les OSPO pour dire que nous, on essaye d'être exemplaires et de donner envie au ministère de s'équiper de la même structure pour qu'ils portent eux-mêmes leur stratégie sur le logiciel libre. L'autre réponse à ta question, c'est de dire que c'est Blue Hats qui compte, ce ne sont pas les postures politiques des uns et des autres. Ça, elles vont changer tout le temps. Est-ce qu'on est sûr de savoir ce que disent les uns et les autres quand ils disent qu'il faut passer à l'open source? C'est compliqué. C'est comme pour les communs numériques. Donc nous, notre mission, et c'est aussi un peu la culture tech développeur qu'on défend, c'est de croire ce qu'on voit et d'aider les gens qui font. Donc ce réseau Blue Hat, c'est des gens qui tous les jours sont confrontés à l'installation de logiciels, au fait de les mettre en production, de les améliorer avec des questions très concrètes. Comment j'améliore ce logiciel sans passer 20 jours à discuter avec un éditeur dans une autre langue que la mienne? Comment j'ai des garanties que ce logiciel libre existera dans 5 ans? Ben, c'est compliqué. Vous pouvez demander à Framasoft. Je pense que tous les logiciels libres sur lesquels ils sont partis pour dégoogliser Internet, c'est compliqué la pérennité des logiciels. Donc voilà, la réponse à c'est nous de pas trop nous concentrer sur les postures et les déclarations politiques, mais de faire avancer sur du concret en apprenant beaucoup des différents écosystèmes et de leur façon d'aborder le logiciel libre. Mais ce qu'on presse, on sent, c'est une volonté collective et une maturité collective pour y aller. Les gens, on n'est plus dans l'enjeu de la confiance. C'est un peu comme Wikipédia. Il n'y a plus l'enjeu de la confiance dans Wikipédia, mais c'est l'enjeu de comment vraiment en avoir un usage utile.
Super. Et bien, je pense que dans la seconde partie de notre échange, on va se pencher sur les questions des leviers d'action, comment rendre ça concret. Avant ça, je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons écouter Storm Down par Kylie Moss. On se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Storm Down par Kylie Moss, disponible sous licence Creative Commons, attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Bastien Guéry, chef de la mission logiciel libre de la DINUB, et Hélène Jonin, développeuse et chargée de mission communauté et contribution. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors avant la pause, on a posé assez largement tout le contexte dans lequel évoluait cette mission logiciel libre de la DINUB, notamment dans le cadre d'une réorganisation importante de cette direction. On posait aussi cette question de comment finalement, de où on était le libre dans les administrations centrales, et la question est évidemment, de comment continuer à progresser, à faire progresser cette situation. C'est en partie la mission de la mission logiciel libre. Il y a plein de leviers possibles. Un qui a été évoqué par Bastien, c'est la question le BOOATS, c'est la question des communautés, de l'animation des communautés, me semble-t-il, au sein des administrations, en tout cas des personnes qui s'engagent pour le libre. Vous pourrez bien sûr me corriger et compléter ce propos. Hélène, je crois que c'est le cœur de votre activité au sein de la mission logiciel libre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce Blue Hats?
Quand je suis arrivée, donc en août dernier, la communauté était quand même déjà bien formée, et elle connaissait déjà plusieurs initiatives bien ancrées. Donc il y a une lettre d'information régulière. Il y a également des rencontres qui sont organisées. On est présent depuis plusieurs années au salon Open Source Expérience, qui était Open Source Summit avant. Et moi, en fait, je suis venue surtout pour renforcer l'animation du programme BLOAT Semester of Code, dont le nom fait référence au Google Summer of Code, qui était un partenariat avec l'école centrale Supélec pour faire contribuer des étudiants à des projets libres dans le cadre d'un stage, enfin de leur stage de fin d'études, en fait. Donc du coup, ces étudiants, ils étaient au nombre de 6. Ils ont pu choisir parmi, je sais plus exactement combien de projets, je sais pas si tu te souviens. Plein, 40, je sais pas.
40, oui, je vais le faire avec les mains, mais je peux parler.
Et donc ces 6 étudiants ont choisi chacun un projet et ont contribué pendant 6 mois au projet qu'ils avaient choisi. Ils étaient en présentiel dans nos locaux. Ils avaient un mentor côté Centrale Supélec, donc leur école, et également un mentor côté logiciel. Les 6 projets qui avaient été sélectionnés, c'était VLC, Ecombox, Open Food Facts, Onyxia et Sysma.
C'est ça.
Je vous demanderai, j'ajouterai les références de ces différents logiciels sur le site. Je pense que la plupart des gens connaissent VLC, hein, qui est cet éditeur, enfin ce lecteur multimédia libre très connu avec le petit cône orange. Les autres, peut-être un peu moins, on les mettra sur le site de l'émission.
Tout à fait. Et j'en ai oublié un, parce que j'ai compté 5. J'ai oublié Environmental Sensing. Et donc l'idée de l'animation de ce stage et de ces contributions, c'était aussi d'accompagner les élèves d'un point de vue formation, parce que potentiellement, ils n'étaient pas tous développeurs aussi au départ, puisque c'est Centrale étant quand même une école d'ingénieurs généralistes. Je les ai aidés à se former sur les technologies qui étaient utilisées à la fois pour le développement et à la fois pour le développement dans les logiciels libres, donc typiquement Git. On les a aussi formés à l'historique du logiciel libre, à tout ce qui était l'économie des logiciels libres, au type de licence, un peu de méthodologie logicielle, et puis à la fin, ça a fini par une belle présentation de leur projet la présentation qui a été fructueuse, vraisemblablement. J'y étais pas malheureusement, mais je crois que ça s'est bien passé.
Et pourquoi Supélec précisément?
C'est très conjoncturel, c'est simplement qu'ils nous avaient. Ils ont frappé à notre porte pour discuter de projets de data science au départ. Donc ils sont venus voir Etalab, et puis au fil des discussions, la motivation commune était plutôt d'essayer de contribuer à des logiciels libres. C'est la personne côté Centrale Supélec qui connaissait aussi cet univers, qui voulait le porter en interne, et on s'est dit qu'on aurait beaucoup à apprendre tous ensemble d'essayer d'aller dans cette direction. C'était pas évident à monter, mais on est vraiment très content parce que dans chaque cas, ça s'est vraiment converti en contribution réelle. Et ce qu'on voit en parlant de commun numérique, de logiciels libres, c'est que ces projets extérieurs, ils ont pas besoin d'un petit coup de pouce par-ci par-là, mais ils ont besoin d'un engagement, j'allais dire, qui ne leur coûte rien. Donc quand on a eu un étudiant, je donne l'exemple de Open Food Facts, donc la communauté autour des bases de données sur l'étiquetage alimentaire, une base de données libre, hein, que dans la même logique que Wikipédia ou que OpenStreetMap. Bah pour eux, c'était vraiment très utile d'avoir une personne à plein temps qui les aidait, et c'était un engagement assez pérenne. Il faudrait évidemment aller bien au-delà, mais ce que demandent ces communautés, c'est des engagements pérennes. C'est pas des coups de pouce par-ci par-là. On n'est pas dans une logique de soutien ponctuel à une start-up. Et ça nous a permis de découvrir et de valider ce besoin-là et de réfléchir différemment pour la suite.
Et qu'en est-il, pourquoi le choix de ces 6 logiciels? Alors, parce qu'à première vue, c'est pas forcément des logiciels dont vont se servir la personne publique. Je trouve intéressant qu'il y ait peut-être des soutiens à des projets qui soient plus peut-être dans une perspective de commun numérique. Est-ce que c'était ça le critère, ou ça venait peut-être des propositions des étudiants? Comment s'est fait ces sélections?
Alors, j'étais pas là au moment de sélection. Les six projets, ce sont les étudiants qui les ont choisis, au final. Mais pour la quarantaine de projets, je pense qu'ils se sont eux-mêmes proposés, et ensuite on avait aussi des critères sûrement pour que la contribution, enfin que la possibilité d'un stage qui soit, enfin soit effective, qu'il y ait un projet autour de ces.
Oui, c'est ça, c'est les étudiants qu'on choisit. Nous, on voulait une masse critique de propositions, et l'écosystème a très bien répondu. Donc on a des entreprises qui nous ont proposé de prendre des étudiants en stage et des communautés. Et dans le choix, au définitif, c'était le choix d'avoir 3 projets qui viennent de l'administration et 3 projets qui viennent de la société civile. Mais ça aurait été 2 et 4, ça aurait pas été très grave. L'essentiel, c'était la motivation des étudiants.
Alors c'est un léger pas de côté, mais je pense qu'on pourra continuer un peu à parler des Blue Hats, qui est un projet assez emblématique et historique, porté notamment dans le cadre de cette mission. Alors je sais pas si elle est indépendante peut-être en partie de la mission logiciel libre, le Blue Hats, ou ça fait...
Les Blue Hats, c'est une communauté dans toutes les administrations.
Oui.
Pour donner des ordres de grandeur, on a 3000 personnes qui lisent la Gazette. Sur Tchap, on a 2 salons historiques de 1000 personnes pour chaque salon. Donc c'est une communauté très large. Et nous, la DINUM, on anime et on accueille cette communauté avec des événements et du contenu éditorial.
D'accord. Alors finalement, je vais revenir sur une... Parce qu'on sait que dans le libre, comme le reste de l'informatique, hein, ça n'échappe évidemment pas aux différents systèmes d'oppression, de domination, puisqu'il se traduit de fait par une surreprésentation dans ces métiers, puis dans les communautés du libre, et je pense que dans les communautés, notamment au sein des administrations, une surreprésentation d'hommes blancs, pour dire les choses simplement. Est-ce que cet enjeu, voilà, d'une meilleure diversité, d'un meilleur accueil des femmes et des minorités, fait partie des interrogations sur comment... animer et faire vivre cette communauté?
Oui, typiquement pour la suite de ce programme qu'on espère renouveler, on réfléchit à répondre à des problématiques de diversité, notamment donc pour, comme tu l'as dit, la représentativité des femmes dans ces métiers. Je sais que Lamia avait commencé un travail aussi, mais je crois qu'il n'est pas encore abouti, sur des portraits de femmes dans le numérique. En tout cas, c'est des questions auxquelles on s'intéresse, et je pense aussi que ma présence dans le pôle, elle n'est pas forcément anodine, puisque justement, ça permet de montrer qu'il y a quand même quelques femmes dans le développement et dans les logiciels libres, et que ça en amènera d'autres.
Oui, puis on a organisé une journée en juillet l'année dernière autour de la mutualisation avec la communauté Blue Hats, et on a eu le plaisir de se faire accompagner par une entreprise qui s'appelle La Dérivation, avec 2 personnes notamment qui sont très sensibles à ces questions et qui nous ont aidés à faire un événement qui respecte des valeurs de sensibilité à la diversité, et on essaye d'avancer dans ces directions-là. On va retravailler avec eux pour un hackathon qu'on organise à la rentrée.
N'hésitez pas à nous faire suivre cet hackathon, si jamais ça peut faire suivre l'information. Effectivement, c'est une manière aussi de contribuer à la réussite de ce genre d'initiative. Tu évoquais l'importance de la contribution et d'une contribution pérenne, le soutien que peuvent avoir la personne publique. Je pense que ça soulève un enjeu extrêmement important qu'on défend à l'April, et je pense que énormément de libristes qui s'intéressent à l'usage du libre dans les administrations perçoivent cet enjeu. C'est celui que les pouvoirs publics ne doivent pas seulement être des utilisateurs passifs, mais bien ils doivent contribuer au logiciel libre, doivent-ils plutôt s'inscrire dans les communautés du logiciel libre. Et c'est tous ces enjeux de passer de changement d'échelle quelque part, de simple utilisation à vraiment une contribution. Je pense que j'aimerais avoir votre regard sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu là derrière ?
Sur la contribution, pour moi, c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas que le secteur public. Et les logiciels libres permettent justement d'ouvrir cette responsabilité. C'est-à-dire, si un éditeur fait le choix de mettre son logiciel en logiciel libre, et même d'aller jusqu'à en faire un commun numérique en ouvrant la gouvernance, ça veut dire qu'il dit « venez m'aider à sécuriser ce logiciel, à l'améliorer, à discuter des fonctionnalités ». Donc le service public a sa part à faire, évidemment, mais il a sa part à faire comme le service privé. Dans le conseil logiciel libre qui est animé par la DINUM, on a une association qui s'appelle TOSIT, et cette association, elle regroupe des administrations et des grands comptes du privé, pour ne pas les citer, Orange, SNCF, parce que ces administrations et ces grands comptes savent que de temps en temps, ils ont besoin de garanties sur des logiciels, et ils ont besoin de pouvoir s'organiser pour financer des contributions à ces logiciels, et financer éventuellement même la reprise d'un logiciel. C'est ce qui a eu lieu, un éditeur a fermé un logiciel qui était auparavant libre. L'administration, en discutant avec des grands comptes du privé, s'est organisée pour produire Trunk Data Platform. C'est les finances qui ont fait ça. Et c'est aujourd'hui un logiciel libre candidat pour rejoindre la fondation Apache. Donc c'est une belle réussite. Derrière ça, on a aussi le marché de support logiciel libre, qui est un marché qui existe depuis longtemps, que les administrations peuvent solliciter pour corriger des bugs, et depuis l'existence de la mission logiciel libre, on essaye de maintenir à jour la liste des commits qui sont faits dans ce marché-là. Donc j'invite tout le monde à venir chercher cette liste sur les pages de code.gouv.fr, parce qu'on met en valeur ces engagements de l'argent public qui vient corriger des bugs et les commits qui vont avec.
Peut-être préciser en deux mots ce qu'est un commit pour les personnes pas familières de ce langage.
Une correction apportée à un logiciel pour retirer un bug.
D'accord. Tu as parlé de marché, mais ça m'évoque les marchés publics. On sait que l'enjeu de la commande publique, hein, comme un levier pour un meilleur usage et un plus large usage du libre dans les administrations, est un enjeu très important. Est-ce que vous le percevez, ce levier d'action ? Est-ce que vous avez la mission logiciel libre et la DINUM plus largement une action vers un meilleur usage, enfin un usage plutôt de la commande publique comme levier ?
Oui, on a une collaboration avec la direction des achats de l'État. La direction des affaires juridiques de Bercy, sur un point assez précis qui est faire prendre conscience à l'acheteur public de ce qu'il achète quand il achète du logiciel. On se rend pas compte, mais c'est un environnement où on est surchargé de buzzwords de marketing, pour employer de l'anglais. Tout se transforme à vitesse grand V. On parle de low code, no code depuis 2 ans. On nous a parlé de SaaS depuis... Voilà. Tous ces mots-là, ils viennent... encombrer l'esprit des acheteurs qui finalement ne sait plus exactement ce qu'il achète. Et surtout, c'est bien beau d'avoir une loi, un cadre juridique qui dit ce qui est acheté par l'administration peut être reversé publiquement, le code source peut être publié, mais en réalité c'est très difficile des fois de savoir si on a acheté du paramétrage ou du code source. Quand on est sur des solutions low code, no code, qu'est-ce qu'on achète pour de vrai ? Donc aujourd'hui, et ça rejoint aussi la question de la contribution, on essaye de pousser, on travaille avec la DAE, la DAJ, sur pousser des bonnes pratiques, de demander aux gens qui répondent à des marchés publics de faire la liste de ce qu'ils vendent. S'ils ont construit une solution propriétaire ou libre sur une énorme pile de briques open source, d'autres logiciels, qu'ils déclarent tout ça. Et donc, cette déclaration, ça vient rompre un peu l'asymétrie entre l'acheteur public et le futur titulaire du marché. Et ça donne à l'acheteur public les moyens de se dire, Ah ok, je signe pour que telle personne me vende une solution propriétaire sur un framework libre, et je le fais en connaissance de cause parce que j'ai des compétences internes sur ce framework libre qui me permettront de rester souverain dans les 3-4 années à venir. Donc là, la commande publique, on avance là-dessus.
D'accord. Une question qui m'avait été remontée en amont de l'émission, peut-être que vous aurez une réponse ou pas, mais il demande si la DINUM peut-elle imposer ou conseiller les exigences d'accessibilité sur des marchés publics, parapublics ou privés. Exemple, la prise de rendez-vous médicaux n'est pas interopérable entre les acteurs du marché. Un futur accès médical sera uniquement disponible via une application mobile. Voilà, nous dit cet auditeur.
C'est pas la DINUM, c'est la loi.
D'accord.
La loi le fait déjà. Les gens qui ne respectent pas l'accessibilité tombent sous le coup de la loi.
Il y a un référentiel général d'accessibilité, alors qui est-il respecté ? Ça, c'est peut-être effectivement une autre question, mais c'est pas de.
Non, il n'est pas respecté assez. On a à la DINUM une équipe sur l'accessibilité qui avance et qui travaille avec tous les ministères pour la faire respecter, mais le cadre, c'est un cadre légal qui s'applique au public comme au privé.
Très clair, merci. Alors du coup, on a fait effectivement des détours, mais pour revenir, sur des sujets intéressants, mais pour revenir peut-être à la question de cette contribution de communauté. Alors Hélène Jonin, vous êtes chargée de mission communauté et contribution. Qu'est-ce que ça signifie peut-être au quotidien ? On aurait pu commencer par là, qu'est-ce que ça signifie concrètement que voilà.
Alors je reste quand même développeuse avant tout. l'accompagnement des communautés, ça va être plutôt d'un point de vue de mes compétences techniques, ça va être de la formation, typiquement de la formation pour les étudiants qui étaient en stage. Et ensuite, c'est aussi l'animation autour du site CodeGo justement, et la prise en main de ce site, et le fait de le rendre beaucoup plus utile et utilisable pour qu'effectivement les codes qui soient publiés puissent être retrouvés et qu'on puisse favoriser leur réutilisation, et également trouver les codes qui ont un potentiel de contribution et de communauté autour. Donc en fait, mon travail au quotidien, enfin en tout cas depuis que je suis arrivée, c'était surtout de réfléchir à un format du site CodeGov et CodeGov/public actuellement pour réussir à mieux fédérer autour des codes sources qui pour l'instant sont simplement publiés.
Alors si je me rappelle bien du fonctionnement de CodeGo, c'est plus ça va lister les différents codes existants mais sans les héberger, ça va ça va pas être des redirections.
C'est ça.
Ce qui m'amène à une proposition qui avait été portée à l'April, qui était celle de la création d'une forge maintenue par les pouvoirs publics pour éviter toute forme de dépendance à une personne privée pour l'archivage du code, pour la mise en œuvre des outils de contribution. Puis quand je dis personne privée, j'ai aucun jugement moral, hein, ça va aussi bien des entreprises aussi aux pratiques potentiellement discutables pour jouer Microsoft, que des associations engagées. Je sais pas, l'April propose une forge dans le cadre de Chaton. On sait que l'Adulact, qui est une association libriste concentrée sur la collectivité éditoriale, propose une forge. Mais on sait bien, voilà, pour des questions notamment d'indépendance, l'enjeu d'une forge qui serait maintenue par la personne publique, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ?
Oui, c'est en réflexion. Notamment, le Comité pour la science ouverte a publié la semaine dernière un rapport sur les forges, et en gros ils préconisent que chaque université ait sa propre forge, et d'avoir une forge au cas où il faudrait pouvoir publier des codes et que l'université n'en a pas. On pense qu'on suivrait la même démarche, c'est-à-dire qu'on encouragerait les administrations à avoir chacune leur forge, comme c'est à peu près le cas actuellement, hein, puisque c'est pour ça que CodeGov en fait moissonne toutes les forges existantes des administrations. Et puis on pourrait imaginer avoir nous notre forge de secours pour que les administrations qui n'ont pas de quoi maintenir une forge et qui voudraient publier du code puissent se tourner vers nous.
Quels seraient les freins en fait ? Pourquoi ce ne serait pas encore mis en œuvre maintenant ?
Les freins, c'est pour l'instant l'équipe est quand même encore petite et ça demande une certaine force pour la maintenir, pour la mettre en place. Du coup, c'est encore en réflexion, et justement pour calculer le coût que la mise en place, le déploiement et la maintenance nous prendraient.
D'accord. L'April pourra peut-être, en prenant acte de l'ambition libriste de la nouvelle feuille de route, appeler la DINUM à mettre les moyens en œuvre pour permettre peut-être cette forge publique. Enfin, ça c'est une histoire à suivre. Alors je vois que le temps avance, et en fait il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore évoqués, ce n'est pas grave, de toute façon le sujet est assez inépuisable. Il y a quand même un sujet alors qui a été mentionné, qui est le CIL, et qui est quand même quelque chose assez emblématique, hein, qui est ce catalogue, mais peut-être que le terme d'ailleurs ne définit pas assez justement ce qu'est le CIL. Le CIL, à un moment, il a été remis en cause. Est-ce que il a été pérennisé? Est-ce qu'il est pérennisé, notamment dans le cadre de cette réorganisation stratégique? Peut-être de rappeler, voilà, en quelques mots, ce qu'est le CIL et pourquoi il est si important.
Je te laisse faire l'historique.
Oui, donc c'est le catalogue des logiciels libres recommandés pour toutes les administrations, fonction territoriale, hospitalière, fonction d'État. Ce catalogue-là, il a évolué parce qu'au départ, c'était vraiment conçu comme une liste des indispensables. Et avec les versions qui vont avec, qui sont la version minimale. PostgreSQL est indispensable à avoir dans votre système d'information ministériel, et vous devez être au moins à la version 10.2. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette liste-là, elle était tellement connue dans toute l'administration que les gens la prenaient comme une liste blanche en se disant « Oh là là, si tel logiciel n'est pas dans le CIL, je n'ai pas le droit de l'utiliser ». Donc, pour éviter ce piège-là, on a changé de braquet complètement en disant on va en faire un radar des usages des logiciels libres dans l'administration et un réseau social de gens qui peuvent s'entraider dessus. Et grâce au boucher double et au travail titanesque de notre collègue Joseph Garonne, qu'on salue au passage, il a fait peau neuve. Il est devenu, il a été mis au système de design du gouvernement. Et on a rajouté des fonctionnalités qui facilitent l'ajout de logiciels et le référencement comme utilisateur de ce logiciel. Comme référent, c'était le terme utilisé auparavant. Je suis à l'université de Lille. J'ai déployé pour mon laboratoire tel logiciel libre. Je souhaite aider d'autres laboratoires ou d'autres personnels. Je me mets comme référent. On a aussi créé la notion d'utilisateur. Donc ça va être une autre façon de se positionner. Mais au total, on a aujourd'hui près d'un millier d'agents publics connectés et référencés. Et j'invite tous les agents publics à aller sur cil.code.gouv.fr pour le faire et aller enrichir la connaissance qu'on a de ces logiciels. Il y a eu un flottement parce que a existé, à partir d'il y a 3 ans, un autre catalogue qui était le catalogue.numérique.gouv.fr qui lui était un catalogue ouvert à tout type de solutions libres et non libres, qui a permis de faire connaître des solutions dans l'administration. On va travailler dans les mois qui viennent pour que les logiciels libres référencés par des éditeurs sur catalogue.numérique.gouv.fr puissent exister dans le CIL, et la condition pour qu'ils existent dans le CIL est qu'ils soient en usage effectif. On ne référence que des choses utiliser effectivement et aujourd'hui dans l'administration.
D'accord. Alors je vais relayer une autre question d'un auditeur. Pourquoi est-ce que le socle, alors pourquoi ce CIL, ce socle interministériel du logiciel libre, référence-t-il ce qu'il appelle un faux open source, et il cite spécifiquement MongoDB qui n'est effectivement plus un logiciel libre?
Alors c'est parce que on a fait comme Wikipédia, on a franchi le pas de la modération a posteriori, et je confirme que MongoDB ne devrait pas être dans le CIL. Et qu'on va corriger ce problème-là. On sait que la server-side public license n'est pas une licence libre. Ça, on a toujours été très clair là-dessus. Il a fallu définir la liste des licences acceptées. Et cette liste, c'est l'intersection, pas l'union, c'est l'intersection entre les listes admises par la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative. Et à la discrétion de l'administration d'exclure telle ou telle licence si nous-mêmes, ou telle variante de licence, si nous-mêmes pensons que cette variante-là n'est pas assez libre. Je pense à des variantes de la GNU Afero Public License qui, si on tord un peu les choses avec un juriste complaisant, peuvent finir par aller contre l'esprit du logiciel libre. Donc on est attentif à ça.
D'accord. Alors le temps avance très très vite. Il y a quand même, je pense, un sujet qui me paraît difficile, notamment parce qu'on est membre, participe à au conseil d'expertise du logiciel libre qu'on a mentionné, qui s'inscrit dans cette logique de communauté, hein, j'imagine bien. Là, ça fait donc un an d'exercice. de mémoire. Alors, en voilà, en très peu de mots, parce que vraiment le temps file, quel est le rôle de ce conseil et puis quel bilan on peut en tirer? Je pense que dans une perspective April, on voit aussi le temps, mais c'est une grosse machine, donc ça se met en place. On a eu un avis, c'est le seul résultat concret pour le moment hein, du conseil. C'est le conseil s'est prononcé sur le fait qu'on considère quasi unanimement, à une exception de près, que l'installation, la facilité d'installation de systèmes d'exploitation libre augmente la durabilité des ordinateurs et des smartphones. Voilà, donc ça, il y a un oui là-dessus. À quoi ça sert aussi du coup d'avoir simplement cet avis-là? Quel est le rôle de ce conseil? Quel bilan tires-tu? Voilà. Alors une grosse question et très peu de temps de réponse. Désolé.
Très rapidement, le conseil réunit à la fois des agents publics qui portent le libre dans leurs administrations et des acteurs de l'écosystème. Il est fait pour que la DINUM apprenne de cet écosystème, d'où ce système d'avis où un acteur, agent public ou membre de l'écosystème, peut se saisir d'un sujet, écrire une synthèse de 5 pages et poser une question au conseil qui émettra un avis. Ça nous sert à découvrir le sujet et à comprendre les enjeux. On a effectivement posé la question: pourquoi est-ce si important d'avoir la liberté technique d'installer un système d'exploitation libre sur tout type de terminal, dans un cadre précis qui est celui de l'obsolescence matérielle? Et pourquoi et quel message nous, administration centrale interministérielle, pouvons faire remonter aux entités côté transition écologique qui sont sur ces questions? Donc on a réfléchi et émis, et argumenté pour avoir l'avis qu'on a émis, disant oui, c'est important d'avoir cette liberté d'installation. On devrait avoir un avis ensuite sur la question du Cyber Resilience Act, une régulation où l'Europe voudrait augmenter la sécurité des briques open source. Est-ce que c'est la bonne façon de faire que ce Cyber Resilience Act, nous, DINUM, on ne veut pas avoir réfléchir dans notre coin en chambre, on demande les avis de ceux qui sont exposés et qui connaissent les choses de première main.
L'April, pour donner simplement sa position, a publié un communiqué sur ce Cyber Resilience Act, le considérant comme une épée de Damoclès au-dessus du logiciel libre. On invite les personnes qui veulent creuser le sujet à lire notre communiqué.
La prochaine séance du conseil, c'est le 16 juin, et il y aura un mot d'introduction de la directrice Stéphanie Cher.
D'accord. Là, on arrive vraiment dans les derniers instants. Je vais quand même vous laisser une minute max, chacun et chacune. Hélène et Bastien, peut-être pour vous, quel est l'élément clé ou les éléments clés que vous souhaiteriez que nos éditeurs et auditrices retiennent dans notre échange? Hélène?
Que la mission logiciel libre, c'est... on fédère aussi autour d'une communauté, autour de ressources, et que du coup, je suppose qu'on essaie d'être un référentiel aussi pour les personnes qui seraient un peu perdues sur tous ces sujets à venir, soit nous contacter directement, soit venir sur notre site et trouver l'information qu'ils recherchent.
Nous sommes ouverts aux contributions. Envoyez-nous un mail à contact@code.gouv.fr. Critiquez nos supports, nos contenus, posez-nous des questions. On essaye de tenir une ligne éthique, de répondre au moins dans la semaine.
D'accord. Je trouve intéressant que vous ayez choisi de mettre des choses très concrètes en fait dans la synthèse, et c'est très cohérent avec finalement les choix qu'on a pu avoir. En tout cas, un grand merci d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. Donc je rappelle, Bastien Guéry, chef de la mission logiciel libre de la DINUM, et Hélène Jeunin, développeuse et chargée de mission communauté et contribution de cette mission logiciel libre. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci.
Merci.